Et à 12h30, on retrouve le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Les élections municipales organisées hier en Turquie ont viré à la débâcle pour le parti au pouvoir AKP.
Et plus encore pour le président Erdogan. Pour autant, faut-il y voir le début d'un possible changement dans le paysage politique. Nous serons à Istanbul dès le début du journal et puis on posera la question à notre invité aujourd'hui, Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI. On se rendra également à Jérusalem après que l'armée israélienne a annoncé ce matin le retrait de ses soldats de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Ce matin, des centaines d'habitants ont déjà afflué pour constater sur place les dégâts causés dans et autour de l'établissement. Toujours à l'étranger, on reviendra sur la légalisation depuis ce matin du cannabis pour un usage récréatif en Allemagne, une quasi-exception dans le monde. L'occasion aussi de s'interroger sur la stratégie de prohibition en vigueur en France. Enfin, depuis que Gabriel Attal a annoncé une possible nouvelle réforme de l'assurance chômage, plusieurs voix commencent à s'élever contre ce projet, y compris, on le verra, dans le camp présidentiel. Le sultan a donc perdu son pari. Hier, Recep Tayyip Erdogan n'a eu d'autre choix que de concéder non seulement la victoire historique de l'opposition municipale organisée en Turquie, mais aussi la pire débâcle pour son parti, l'AKP. Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, dans toutes les plus grandes villes du pays, l'opposition a infligé un désaveu cinglant et même humiliant au chef de l'État, lequel s'était personnellement impliqué dans cette campagne, en parcourant lui-même pas moins d'une demi-centaine de villes, donnant ainsi à ce scrutin local, une résonance nationale et donc à ses résultats un poids d'autant plus significatif. Alors cette défaite signe-t-elle pour autant la fin du Raïs? Déjà lors des précédentes élections municipales qui avaient consacré la première victoire de l'opposition à Ankara et Istanbul, nombre d'observateurs avaient annoncé le crépuscule d'Erdogan, sauf que depuis celui-ci a fait mieux que braver la tempête en se faisant réélire encore l'an dernier. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Avant de poser la question à notre invité, petit détour par la Turquie pour mieux comprendre déjà la cartographie des résultats avec notre correspondante Marie-Pierre Véran.
Ici à Istanbul, le CHP, le parti d'Imamoglu, a raflé la majorité des arrondissements, dont certains très symboliques comme Üsküdar où vote le président Erdogan, mais aussi d'autres grands arrondissements, Beyoğlu côté européen, Eyüp Sultan, Gazi Osman Pasha, Çatalca. Le maire İmamoğlu a énuméré hier ces arrondissements tombés entre ses mains devant des partisans en liesse. Sur les 39 arrondissements d'Istanbul, il est en tête dans 26 et l'AKP dans 13. La vapeur s'est renversée au profit du maire sortant qui dispose d'une majorité au conseil municipal pour gouverner Istanbul, ce qui n'était pas le cas ces 5 dernières années. Et son parti réalise donc une percée historique dans toute la Turquie. Il en dirige les plus grands ville, le CHP qui a conservé donc Istanbul, mais aussi Ankara, Izmir, Antalya sur la côte méditerranéenne, Adana dans l'Est et qui a gagné le grand centre industriel de Bursa dans l'Ouest. L'Ouest du pays d'ailleurs, hein, la région de Thrace et celle de la mer Égée sont colorées en rouge ce matin, avec des percées sur la région de la mer Noire, dans des villes minières acquises de longue date à l'AKP, le CHP qui gagne aussi en Anatolie centrale. L'AKP conserve de son côté ses fiefs dans le centre, Konya, Kayseri, Malatya, et bien sûr Erzurum dans l'Est, la mer Noire aussi avec Trabzon et Rize, ville de la famille du président Erdogan. Mais ce sont des régions beaucoup moins peuplées. Pour faire simple, il y a en Turquie 30 métropoles, l'opposition en dirige désormais 14, ce sont les plus riches et les plus peuplés. Quant au parti kurde, il a confirmé sa très bonne implantation dans le sud-est de la Turquie en raflant de nouveau Diyarbakır, Mardin, Batman ou encore Van.
Et pour continuer d'évoquer les résultats de ces élections, invité de la rédaction à présent, Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient. Bonjour madame.
Bonjour.
Ce matin, le président Erdogan a lui-même qualifié ses résultats de tournant, mais pas de fin. Il a promis de respecter la décision de la nation. Avant de s'intéresser à la suite, peut-être pour commencer, comment expliquez-vous déjà l'échec du président ?
Visiblement, il y a quand même une usure du pouvoir qui commence à se faire sentir. On avait déjà l'impression que les élections de 2023, donc législatives, les présidentielles, seraient difficiles pour Erdogan. Il a été obligé d'aller au second tour à la présidentielle pour être élu. Et là, finalement, c'est cette érosion qui se poursuit avec l'AKP qui n'a pas vraiment de renouvellement programmatique, avec des candidats sans relief. Et Erdogan, probablement trop confiant aussi, mais qui lui-même a vieilli. On sent qu'il est quand même très usé par les luttes politiques maintenant.
Ces élections marquent une victoire donc historique pour l'opposition. elle témoigne aussi d'un recul assez net de la participation. Est-ce qu'il faut en déduire que la désaffection concerne pour l'essentiel les partisans du président, ou bien est-ce que plus largement, il faut y voir une possible lassitude générale de devoir retourner aux urnes 10 mois seulement après les présidentielles et législatives ?
Alors d'abord, on a toujours un taux de participation qui est extrêmement élevé en Turquie. Là, on est à plus de 70%, parce qu'en fait, les élections sont... Le vote est obligatoire en Turquie, mais le non-vote n'est pas sanctionné concrètement. Et effectivement, il y a certainement d'abord une partie de l'électorat AKP qui s'est démobilisée, et puis il y a un sentiment de découragement plus large de l'électorat qui vit depuis 2002 sous un pays qui est entièrement dominé par l'AKP. Donc l'impression que voter n'amènera jamais l'alternance. Et c'est justement l'enjeu qui était extrêmement intéressant de ces élections. C'est que tout le monde y allait un peu en traînant les pieds. Le maire d'Istanbul, Imamoglu, n'était pas du tout donné gagnant facilement. Et la grande surprise ce matin, c'est qu'effectivement, il y a une forme d'alternance qui s'est faite au moins sur ces élections locales.
Est-ce que le maire élu d'Istanbul est le nouvel homme fort de l'opposition, notamment dans la perspective peut-être de la prochaine présidentielle, sera en 2028?
Alors ce qui est intéressant avec Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, c'est que c'est une personnalité extrêmement brillante qui est donnée depuis très longtemps, au moins depuis sa victoire en 2019 à Istanbul, comme le leader naturel en fait du parti kémaliste. Le problème, c'est que ce parti à lui seul ne peut pas amener l'alternance face à l'AKP, qu'il a donc dû s'allier à différents partis, dont un dissident du parti nationaliste, le İyi Parti, qui cette fois-ci n'a pas voulu faire campagne avec lui. Les partis kurdes ne sont jamais intégrés dans l'équation non plus. Donc en réalité, İmamoğlu, c'est un leader naturel en tant que personne. Le CHP a des difficultés à prendre le dessus dans le paysage politique turc. Or, aujourd'hui, il est incontestablement le vainqueur de ces élections, ce parti kémaliste. Donc, c'est vrai que ça remet vraiment sur un tremplin İmamoğlu, mais İmamoğlu n'est pas le chef du parti. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura encore des luttes internes de succession au sein du parti kémaliste pour l'avenir.
Je le disais dans sa déclaration d'hier soir, Erdogan a reconnu que ce résultat constituait l'expression de la volonté nationale. Il a promis de ne pas s'entêter en allant à l'encontre de ce message. Faut-il s'attendre à une vie démocratique, disons, plus animée en Turquie après ces résultats ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'Erdogan, effectivement, parle de démocratie parce que pour lui, la démocratie, elle se limite pratiquement aux élections. Jusqu'à présent, il gagnait les élections pratiquement tout le temps. Donc c'était assez pratique de conserver cette définition. Maintenant, on a une pratique du pouvoir qui est beaucoup plus resserrée. Depuis des réformes constitutionnelles qui ont supprimé le poste de Premier ministre, le président de la République est vraiment tout puissant dans le pays. Là, ce qui est important, c'est qu'Istanbul, qui est une ville qui concentre vraiment le tiers de l'économie turque, qui est une mégapole qui vraiment domine complètement le pays, est revenu à nouveau à ce maire d'opposition qui, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Pierre Véraud, va pouvoir compter sur une majorité municipale, alors que jusqu'à présent, il était empêché pratiquement de gouverner à Istanbul, puisque l'AKP lui mettait des bâtons dans les roues systématiquement. Donc on a vraiment là une bascule quand même vers un rapport de force beaucoup plus équilibré du point de vue politique.
Et on terminera par ces mots. Merci Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Près de 6 mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque terroriste sans précédent du Hamas contre l'État hébreu, l'offensive israélienne de représailles ne connaît toujours aucun répit dans la bande de Gaza, assiégée et affamée.
Le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé du mouvement islamiste fait état de plus de 32 000 morts, la plupart des civils. Hier soir, dans un long communiqué, le Hamas a d'ailleurs présenté pour la première fois ses excuses aux Gazaouis, littéralement à bout de souffle pour les souffrances causées par cette guerre, tout en réitérant malgré tout sa volonté de poursuivre le combat. Sur le champ de bataille, justement, et après 2 semaines d'opérations intensives, l'armée israélienne a, elle, annoncé ce matin avoir retiré ses chars de l'hôpital Al-Shifa, sous le couvert des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, laissant derrière elle un paysage de désolation, des bâtiments détruits, calcinés et des dizaines de cadavres gisant au milieu des décombres, dont certains encore en état de décomposition. Les précisions depuis Jérusalem du correspondant de RFI pour France Culture, Michel Paul.
L'information est parvenue dans un premier temps de sources palestiniennes à Gaza. Après 2 semaines d'opération à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand établissement de la bande de Gaza, les blindés israéliens et les forces spéciales ont quitté l'enceinte de ce centre hospitalier. Des témoins oculaires ont affirmé que les troupes sont parties sous le couvert de frappes aériennes et de tirs d'artillerie. Selon le ministère gazaoui de la Santé sous contrôle du Hamas, des dizaines de corps auraient été découverts à l'intérieur de l'hôpital après le départ des forces israéliennes et les dégâts matériels seraient très importants. Côté israélien, on confirme que l'opération a effectivement pris fin. Selon l'armée israélienne, il s'agissait d'un raid précis visant des chefs terroristes et des infrastructures. L'armée a déclaré que plus de 500 membres du djihad islamique et du Hamas ont été capturés et quelques 200 autres ont été tués, dont plusieurs hauts commandants. Au cours de cette opération, le porte-parole souligne qu'il n'a pas été porté atteinte aux civils, les patients et les équipes médicales qui se trouvent sur place dans le centre hospitalier Al-Shifa. Et à signaler encore, un porte-parole militaire israélien a annoncé ce matin que 2 soldats ont trouvé la mort lors de combats dans l'enclave palestinienne ces dernières 24 heures, ce qui porte à 600 le nombre de soldats israéliens morts depuis le début des affrontements entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier.
Et pendant ce temps, la colère contre la stratégie funeste du Premier ministre israélien a conduit hier, pour la 2e journée consécutive, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Jérusalem pour réclamer la démission de Benjamin Netanyahou et appeler un accord avec le Hamas pour permettre la libération des otages à Gaza.
Après Malte et le Luxembourg, l'Allemagne est devenue ce matin le plus grand pays de l'Union européenne à légaliser l'usage récréatif personnel du cannabis.
Oui, une légalisation polémique censée encadrer strictement non seulement la culture des plants de chanvre, mais aussi la consommation de marijuana. Sauf que cette réforme, ardemment voulue par les écologistes et les libéraux de la coalition au pouvoir, destinée à lutter donc contre les trafics, suscite en réalité autant d'attentes que de craintes. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin. En l'occurrence, Sébastien, l'application même de cette légalisation pose encore de très nombreux problèmes.
Et oui, parce que la loi laisse en fait un certain nombre de questions sans réponse. Par exemple, comment se procurer du cannabis dès ce 1er avril? Les consommateurs qui ont planté des graines ce matin doivent maintenant attendre la floraison, pas avant l'été. Et les clubs cannabis, les associations qui distribueront la drogue à leurs adhérents, ne pourront débuter, eux, leurs activités que le 1er juillet. Cela veut dire que pendant cette période de transition de 3 mois environ, le marché noir a encore de beaux jours devant lui. Autre question, comment appliquer la loi? La consommation est interdite à moins de 100 mètres des écoles, crèches, terrains de jeu et installation sportive. Benjamin Yendro, le porte-parole du syndicat berlinois de la police, redoute un casse-tête pour les forces de l'ordre.
Avec cette règle des 100 mètres, cela signifie quasiment qu'il ne doit pas y avoir de drogue à Berlin, parce qu'il y a des écoles et des crèches partout. Cela veut dire que nos collègues vont devoir se déplacer avec un mètre ruban. Et puis on ne doit pas avoir plus de 25 grammes sur soi. On peut avoir au maximum 50 grammes à la maison. On a le droit d'avoir 3 plantes femelles. Cela signifie que nos collègues devront savoir les reconnaître. On a créé une loi, mais on n'a pas réfléchi à la façon dont les forces de l'ordre l'appliqueront.
Vous l'entendez, les syndicats policiers sont vent debout contre cette légalisation qui divise aussi les Allemands. 1 sur 2 y est opposé. Beaucoup redoutent aussi une surcharge de travail pour la justice car la loi prévoit l'amnistie des délits liés au cannabis. 200 000 affaires doivent être réexaminées.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Et pendant que l'Allemagne légalise donc le cannabis récréatif, la France, elle poursuit la prohibition. C'est même l'un des pays aujourd'hui les plus répressifs sur le vieux continent, avec des résultats d'ailleurs plutôt mitigés, puisque le taux de consommation de cannabis y est l'un des plus élevés de l'Union européenne. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et face à cette situation, Antoine, une partie de la classe politique appelle désormais à la dépénalisation, voire à la légalisation du cannabis.
Oui, historiquement, ce sont les Verts qui sont les plus grands partis d'une légalisation. Pour eux, c'est la seule façon de lutter efficacement contre les trafics illégaux. C'est un moyen également de contrôler la qualité des produits consommés, mais aussi de permettre une meilleure suivi des consommateurs. La France insoumise est également de cet avis. Le Parti socialiste, lui, est divisé sur cette question. François Hollande n'était pas favorable à la dépénalisation, tout comme Arnaud Montebourg ou encore Manuel Valls. Mais plusieurs ministres socialistes étaient pour la contraventionnalisation de la consommation de cannabis. cannabis, voire même la dépénalisation, comme Vincent Payon. À droite, pas question d'envisager une dépénalisation. La plupart des élus LR prônent un durcissement de la loi, tout comme ceux du Rassemblement National qui évoquent les risques pour la santé et qui font le lien entre cannabis et délinquance. Pour l'extrême droite, légaliser le cannabis serait d'abord une dérive idéologique qui reviendrait à acheter la paix civile. Quant à la Macronie, on est dans une certaine confusion. En 2016, Emmanuel Macron laissait entendre qu'il était favorable à une légalisation du cannabis. Puis à partir de février 2017, changement de cap, il s'oppose à toute dépénalisation. Et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, défend une politique tolérance zéro. L'idée, c'est que seule une répression accrue va permettre de lutter contre le trafic. Et parmi les phrases politiques de ces derniers mois, on retiendra celle d'Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice a coupé l'herbe sous le pied des consommateurs avec cette phrase qui restera « Celui qui fume son petit pétard le samedi ». Ce pétard-là a le goût du sang séché sur le trottoir.
Merci Antoine Marette.
Vous écoutez France Culture, il est 12h45, c'est le journal de la mi-journée et c'est la suite avec vous Thomas Cluzel.
C'était il y a moins d'une semaine, Gabriel Attal a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour cette année, soit le cas échéant la troisième en l'espace de 5 ans, avec toujours le même objectif, augmenter d'une part la durée minimale de travail pour toucher une allocation et réduire d'autre part la durée d'indemnisation des chômeurs. Mais déjà une partie de la majorité présidentielle met en garde le gouvernement. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Depuis quelques jours, plusieurs voix s'élèvent donc contre le projet du Premier ministre, y compris Stéphane, dans le camp présidentiel.
Oui, car vous l'avez rappelé, il y a déjà eu deux réformes de l'assurance chômage en 2019 et en 2023, durcissant à chaque fois les conditions d'indemnisation des chômeurs. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois au cours des deux dernières années pour toucher une allocation et son versement ne peut pas excéder 18 mois. On pourrait ramener cette durée d'indemnisation à 12 mois, a esquissé Gabriel Attal mercredi dernier sur TF1. Hier matin sur France Info, l'ancien ministre des Transports, aujourd'hui redevenu député Clément Beaune, faisait part de ses réticences.
Je pense qu'il faut garder la philosophie des réformes de l'assurance chômage qu'on a nous-mêmes portées, qui consistait en effet à dire, quand le marché du travail va mieux, eh bien on peut être plus exigeant avec les demandeurs d'emploi, parce qu'il y a des emplois disponibles, et quand le marché du travail va moins bien, eh bien, on est plus protecteur. Je pense qu'il ne faudrait pas dévier de cette ligne.
Même chose hier midi sur RTL. Cette fois, c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée, le député Renaissance Sacha Houlier, qui rappelait lui aussi l'esprit des deux précédentes réformes et qui expliquait qu'une troisième réforme n'était selon lui pas opportune.
Si nous réduisons la durée d'indemnisation, à quelle fin le faisons-nous ? Une mesure d'économie. Est-ce que je pense qu'il faut le faire une mesure d'économie sur les chômeurs aujourd'hui ? Je ne le pense pas.
Ces réticences émanant de l'aile gauche de la majorité montrent qu'il n'y aurait a priori pas de majorité au Palais Bourbon pour conduire une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la finalité de l'annonce de Gabriel Attal. Il s'agit peut-être de faire pression sur les partenaires sociaux qui discutent actuellement sur le sujet et qui ont jusqu'au 8 avril pour trouver un accord, à moins que ce soit un message en pleine campagne électorale en vue des européennes adressé aux classes moyennes laborieuses pour rappeler que le pouvoir exécutif entend toujours donner la priorité à ceux qui travaillent.
Merci Stéphane Robert. Chaque année, la date prête à sourire. Plusieurs changements entrent en vigueur en ce 1er avril, parmi lesquels, fort heureusement, de bonnes nouvelles plutôt que de mauvaises plaisanteries. C'est ainsi, par exemple, que les effets de l'inflation vont être réduits pour toutes celles et ceux qui perçoivent le revenu de solidarité active, la prime d'activité, les allocations familiales, l'allocation aux adultes handicapés ou bien encore l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Toutes ces prestations vont augmenter de 4,6%. À cela s'ajoute la fin du malus temporaire de 10% appliqué sur les pensions complémentaires de nombreux retraités du secteur privé. 700 000 personnes vont ainsi voir leurs pensions revalorisées conformément à l'accord décidé en octobre dernier par les organisations syndicales et patronales. Une bonne nouvelle donc pour les indemnisés, sauf que l'argent des caisses de retraite du privé étant toujours excédentaire, l'État, Wafia Kenich, continue de lorgner sur ce pactole qui pourrait l'aider à remplir ses caisses asséchées.
Ce malus avait été instauré en 2019. Il s'agissait d'inciter les salariés à travailler un an de plus malgré leur taux plein. Cette décision de lever le malus a été prise par les organisations syndicales et patronales cet automne lors d'un nouvel accord de pilotage qui va jusqu'à 2026. La situation financière du régime est donc désormais saine. Pour preuve, il est excédentaire en 2022 de 5,2 milliards, en 2023 de 4,3 milliards et c'est sans compter avec les effets escomptés de la mise en place de la réforme des retraites qui pousse l'âge légal de départ à 64 ans. Cette mesure devrait rapporter 6 milliards d'euros aux caisses de l'Agirc-Arrco. D'ici 2030, une fierté pour les gestionnaires de ce régime syndicat et patronat. Ces mêmes gestionnaires mettent en garde l'État. Pas question de toucher à ce pactole, préviennent-ils, car depuis l'automne dernier, c'est ce que le gouvernement a pourtant en tête. Récupérer plusieurs milliards pour parvenir à payer les retraites minimales promises au moment de la réforme des retraites. Sauf que les déficits abyssaux rendent cette promesse difficile à tenir. D'où l'idée de se servir dans les caisses des retraites du privé en très bonne santé. Problème pour l'exécutif, il a face à lui des partenaires sociaux qui comptent bien faire bloc. Il le répète à l'envi, cet argent est celui des salariés. Il ne doit pas servir à combler les trous provoqués par la mauvaise gestion des politiques publiques.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et pluvieux sur la majeure partie du pays. L'Indre-et-Loire a été placé en vigilance rouge pour risque de crue. 9 autres départements sont en vigilance orange. Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Côte d'Or, Dordogne, Gironde, Saône-et-Loire, Charente et Charente-Maritime. Quelques éclaircies parviendront toutefois encore à résister des Pyrénées jusqu'au pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.